Madame Julien, aujourd'hui, Monsieur Julien va continuer à nous parler de la Révolution française. Quelle illustration musicale avez-vous choisie pour cette émission?
Ce seront aujourd'hui des chants révolutionnaires. D'abord, Noblesse oblige, la Marseillaise, devenue par la suite l'hymne national de la France. On connaît l'histoire et chacun de nous, enfant, a découvert dans le dictionnaire le tableau de Pils, qui est au musée du Louvre, représentant Rouget de Lisle, la main sur le cœur, chantant à pleine voix pour les invités du maire de Strasbourg, ce chant qu'il vient de composer. L'histoire diffère un peu de l'anecdote, mais ce qui est sûr, c'est que Rouget de Lisle a destiné ce chant d'enthousiasme patriotique aux soldats de l'armée du Rhin, et qu'il porta effectivement au début le nom de chant de guerre pour l'armée du Rhin. C'était le 25 avril 1792, jour où fut rendue publique à Strasbourg la nouvelle de la déclaration de guerre de la France à l'Autriche. Et dès le mois de juin, ce chant est connu à Marseille, où on en distribue un exemplaire aux soldats volontaires. Enfin, le 30 juillet, c'est l'entrée à Paris du bataillon des fédérés de Marseille qui défile aux accents du chant de guerre pour l'armée du Rhin. Le succès est foudroyant, tout Paris chante ce qui sera désormais la Marseillaise. Second chant, le chant du départ. Paroles de Joseph Chénier, musique de Méhul. Cet hymne aurait été lui aussi composé dans une soirée de salon, sur un coin de cheminée, au milieu du bruit des conversations. Détail qui dépeint bien le climat de l'époque. Robespierre demanda à la Convention de le distribuer en 8 000 exemplaires aux citoyens et aux soldats. Et le chant du départ fut exécuté en public le 14 juillet 1794 pour célébrer le 5e anniversaire de la prise de la Bastille. La victoire, en chantant, nous ouvre la carrière, la liberté guide nos pas.
Monsieur Julien, depuis plusieurs semaines, vous nous décrivez les faits marquants de la Révolution française qui a duré plusieurs années. Aujourd'hui, vous allez nous décrire la vie à Saint-Antonin pendant la Révolution française.
Quelques aspects de la vie à Saint-Antonin pendant la Révolution française, étant donné que c'est pas facile de décrire une période pareille. Surtout quand on dispose d'une documentation énorme accumulée dans nos archives pendant cette période révolutionnaire. Cette énorme masse de documents traduit l'intensité de la vie municipale, faite d'innombrables réunions. Certains mois, on compte jusqu'à 10 réunions du conseil municipal, qu'on appelait alors conseil général de la commune. Faites aussi d'assemblées électorales diverses, on votait beaucoup, de rassemblements et de fêtes civiques, d'enquêtes, de recensements, de réquisitions, de visites domiciliaires, sans parler de la mise à exécution des mesures administratives que multipliait le pouvoir central. La fonction d'officier municipal, on disait officier municipal, pas conseiller municipal, bien que bénévole, était particulièrement lourde et astreignante, et je m'étonne encore à lire ces documents de voir que ces gens-là étaient assidus aux réunions. Je me demande si aujourd'hui ils auraient ce courage. La lecture des documents révèle que pendant cette brève période de 3 années, font la Révolution n'a pas duré très très longtemps, 1792, 1793, 1794, qui sont des années terribles, mais aussi exaltantes par certains côtés, la vie locale n'est que l'écho plus ou moins tardif et affaibli de la vie nationale. Oh, notre commune n'a pas été à la pointe du mouvement révolutionnaire. Si la réforme de 1790, comme nous l'avons vu, a mis fin à l'oligarchie des notables en rendant électives les charges municipales, elle n'a pas pour autant accru le pouvoir des élus locaux. Certes, le conseil municipal a vu son recrutement élargi et sa composition plus représentative de la population de la commune, bien que le bas peuple n'y ait jamais été admis. Il ne faut pas l'oublier, ça. La révolution n'est pas une révolution populaire, elle est bourgeoise. La municipalité élue les 8, 9, 10 et 11 décembre 1792, après l'abolition de la royauté et l'institution de la République, est en ce sens significative et exemplaire. Le maire élu est Jean Tabarly, dit Peyrotte, de la Veillerie, là-haut sur le plateau. Il a été élu au deuxième tour seulement, par 150 voix sur 243 votants. Tout le monde ne vote pas. Et sur les 8 officiers municipaux, on compte 2 autres laboureurs. C'est la promotion significative des paysans.
Oui, monsieur Julien, les paysans ne passent pas en principe pour être des révolutionnaires. Alors c'est un peu étrange que ce soit justement cette période qui fasse leur promotion.
Qui fait leur promotion? D'abord, il faut bien dire que c'est électif maintenant. On élit, n'est-ce pas? On ne coopte plus. Sont électeurs, sont éligibles tous ceux qui paient soit 3 journées de travail, soit 10 journées de travail. Or, qui paie les impôts? Ce sont les artisans, les marchands, les bourgeois, c'est sûr, mais aussi tous les propriétaires de grosses propriétés. Jean Tabarly, c'est pas un petit paysan, hein, c'est un laboureur, comme on disait, une patsesse. Bon, donc, c'est un premier point, ils participent à l'Assemblée électorale, on les connaît, ils peuvent être élus, mais ce n'est pas la seule raison. Dans cette période extrêmement difficile, l'approvisionnement des citoyens de la ville posait un problème grave, notamment en pain. Or, qui est-ce qui dispose du pain, ou du moins du blé? Ce sont les paysans. Et au fond, on se dit, si on le nommait maire, celui-là, il résoudrait peut-être le problème de l'approvisionnement. C'est un peu intéressé, l'élection de Jean Tabarly. Quant à être révolutionnaire, non, il ne l'est pas. Nous le verrons d'ailleurs, il ne restera pas maire très longtemps. On s'apercevra qu'il est un peu mou, en ardeur révolutionnaire. Une autre particularité, ce n'est pas la seule, ça, l'entrée des paysans. C'est, parmi les officiers municipaux, le citoyen Lastic. Hein, le citoyen Lastic, je veux dire par là, le comte Claude-Marie de Lastic-Saint-Jean. Mais attention, nous ne pouvons plus maintenant l'appeler comte de Lastic Saint-Jean. Il est comme les autres. On a aboli tous les titres nobiliaires, n'est-ce pas? Il les a abandonnés de gaieté de cœur. Il est aussi élu officier municipal dans cette première municipalité de cette première république. Il approuve donc, le citoyen Lastic, la déchéance et l'emprisonnement du roi. Et il prête, avec tous les autres, le serment suivant. Je jure, on prêtait toujours serment quand on entrait en fonction. Je jure d'être fidèle à la nation et à la loi et de maintenir de tout mon pouvoir la liberté et l'égalité ou de mourir à mon poste.
Amour sacré de la patrie, conduit, soutient nos bras vengeurs. Liberté, liberté chérie, qu'on va avec tes défenseurs, qu'on va avec tes défenseurs. Sous nos drapeaux de la victoire, à tout à tes mâles accents, que tes ennemis respirent, voient ton triomphe et notre gloire.
Raconter la révolution à Saint-Antonin me paraît sans grand intérêt puisque rien d'exceptionnel n'est à relever. C'est pourquoi j'ai cru bon, afin de donner une idée du climat qui a pu régner ici, de lire quelques feuillets, de feuilleter le registre des délibérations du conseil municipal sur une courte période, un mois et demi. De quoi s'occupaient-ils ces gens-là ? Bien voilà, le 13 avril 1793, l'an premier de la République, indique-t-on sur le registre, sur la réquisition des commissaires Delpech et Lespinasse, venus de Villefranche, envoyés par le district, les papiers du citoyen Lastic, officier municipal, sont mis sous scellé et des visites domiciliaires sont opérées, séance tenante, chez le citoyen Lastic et chez les frères Joanny, prêtres réfractaires. 21 avril 1993, le conseil accorde 15 certificats de civisme et envoie une adresse à tous les citoyens de la commune pour exalter l'amour, les recommander l'amour de la chose publique, les inviter à une surveillance active et éclairée et à effectuer les dénonciations justes envers les gens qui ne se conduisent pas convenablement. On arrête Bernard Rosé, garçon cordonnier, qui a tenu des propos inciviques. On le met en prison et son jugement interviendra. C'est un lampiste, garçon cordonnier. Il a eu le malheur de crier bravo à Dumouriez qui vient de passer à l'ennemi. 26 avril 1993, Poux, membre du district, un Saint-Antoninois, ordonne la réquisition des chevaux, la fabrication de piques, la remise des armes par les particuliers. Coste, commandant de la garde nationale, partira sans délai, avec 150 hommes pour marcher sur Najac où il doit être à minuit.
Qu'est-ce qui se passe à Najac ?
Eh bien, les gens de Najac n'avaient pas été dans la droite ligne révolutionnaire et on les soupçonnait de certains conseillers officiers municipaux de Najac d'entretenir un foyer de contre-révolution. En réalité, je n'ai pas d'informations précises sur ce qui s'est passé à Najac dans nos archives. Je sais tout juste que 150 Saint-Antoninois se sont rendus à Najac. Ils sont parvenus avant minuit, ont occupé la ville de Najac avec d'autres gardes nationaux venus de Villefranche, ont terrorisé la population de Najac, se sont emparés des poules, des poulets, des petits cochons, et ont fait la soupe là-haut, sur la place de Najac, à minuit, ce 26 avril 1993. C'est terrible. Le 2 mai, on délivre 32 certificats de civisme sur avis favorable du comité de surveillance des Amis de la Liberté et de l'Égalité, parce que les officiers municipaux, attention, ils étaient bien les maîtres, mais ils étaient surveillés en permanence par une société, ce qu'on appelait la Société des Amis de la Liberté et de l'Égalité, qui groupait les ardents révolutionnaires. En réalité, le secrétaire de cette société, c'était le curé d'Assousse. Le 3 mai, on arrête Moulet de Caussade, surpris à Servanac, jugé suspect. Il est douteux cet homme. On l'arrête et on le garde en prison et les consuls de Caussade le réclameront. Le 10 mai, ordre du district de Villefranche d'envoyer au dépôt de Villefranche tous les suspects. Le citoyen Lastic, désormais, n'assistera plus aux séances.
Oui, monsieur Julien, vous nous aviez présenté le comte de Lastic, dont le citoyen Lastic, comme un bon révolutionnaire. Comment se fait-il que tout d'un coup il devienne suspect ?
Le citoyen Lastic, il fait ce qu'il peut, quoi. Il s'est adapté, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il a approuvé la République, mais seulement, voilà, il a un tort énorme. C'est qu'il est le père, il a deux enfants, deux garçons, tous les deux militaires d'ailleurs, l'un dans l'infanterie, l'autre dans la marine. Et ces deux enfants, ils sont pas à Saint-Antonin, ils ont disparu. Il a beau dire qu'il ne sait pas où ils sont, en réalité, ils sont émigrés. Et une loi terrible a été publiée contre les suspects qui fait obligation aux magistrats municipaux et aux magistrats du district de mettre en état de réclusion les parents des émigrés. Ça, c'est une mesure terrible. Elle a pour but de faire rentrer les émigrés, si on peut, en s'en prenant à leurs parents. C'est terrible, ça. Et le citoyen Lastic, en dépit de son loyalisme aux institutions nouvelles, va être mis en réclusion à Villefranche, je ne sais pas où exactement, dans un couvent, certainement, où il va rester plus d'un an, jusqu'après le 9 Thermidor 94. Eh bien, voilà, il part. Ce jour-là aussi, on décide que les 24 volontaires de la commune partiront demain équipés pour Villefranche pour être incorporés au 1er bataillon de l'Aveyron.
Vous nous dites ce qu'était ce bataillon de l'Aveyron ?
Ah, mais tous les départements avaient été obligés, en vertu de la déclaration de la patrie en danger, de former, de donner des volontaires. Et on avait fait la répartition des volontaires. C'était, faut pas croire qu'on avait dit, la patrie est en danger, on vous attend. Non. On avait fixé à chaque commune le contingent de volontaires. Pour Saint-Antonin, il en fallait 24. Ces 24 volontaires, nous l'avions vu dans la dernière émission, d'ailleurs, avaient été choisis d'une certaine façon, hein. C'est-à-dire, c'était les gens qui n'avaient pas de travail, ou qui étaient un peu poussés, des domestiques. Alors, ils étaient volontaires, quoi. Ce n'étaient que des gens du bas peuple. On les a équipés de vêtements, d'armes, et à ce moment-là, on attendait les ordres. Les ordres sont venus, il faut les envoyer à Villefranche. Et à Villefranche, il se constituera un groupe de compagnies qui iront à Rodez pour constituer le premier bataillon de l'Aveyron, qui sera envoyé, lui, dans les Pyrénées-Orientales. Ce sera pas l'armée du Rhin, comme on disait tout à l'heure, ce sera l'armée des Pyrénées-Orientales. Le 16 mai, on délivre à nouveau une vingtaine de certificats de civisme. Le 21 mai, levée de volontaires contre des Français, des frères, qui ont arboré dans plusieurs départements l'étendard de la révolte. Et alors, après ce discours, applaudi par l'Assemblée, on a ouvert le registre dont il s'agit, et à l'instant, nous dit le secrétaire de mairie, 112 citoyens, au nombre desquels sont Vieux-Seux et Cantarel, officiers municipaux, Barthélémy Pénavert et Jean Sarremejeanne, notables, se sont présentés au bureau, luttant de patriotisme pour s'y faire inscrire. Tel était le dévouement généreux qui animait tous les citoyens en général, que plusieurs jeunes citoyens, que la faiblesse de leur âge a fait refuser à l'inscription, en ont versé des larmes.
Vous nous disiez que Saint-Antonin n'était pas à la pointe de la Révolution.
Non.
Et pourtant, il semblerait, d'après ces textes, que les citoyens saint-antoninois soient prêts à aller se battre et mourir,
oui,
pour la cause révolutionnaire.
Oui. Il faut toujours se méfier des textes quand on parle d'une situation ou d'un climat dans une population. Hein. Là, les officiers municipaux sont prudents, n'est-ce pas? Et ils savent que la situation est tendue et qu'on les espionne. Alors bon, il faut se montrer patriote. La patrie est en danger, il faut des volontaires partout. Nous, on est comme à Paris, tout le monde se lève. Oui, on en trouve 112 et on dit on a versé des larmes parce qu'on n'a pas pu s'engager. On n'empêchait personne ne s'engager. Ils auraient pu s'engager, mais c'est pour montrer qu'ils sont patriotes. C'est un petit peu ça, abusif. Hein. Il ne faut pas se laisser abuser par ça. Ils montreront très vite qu'ils ne sont pas si révolutionnaires que ça, les Saint-Antoninois. Le 22 mai 93, le lendemain, les 17 ecclésiastiques de la commune prêtent le serment civique, parce qu'eux aussi sont soupçonnés, ce sont des suspects, ça. Qu'est-ce qu'ils disent, ces ecclésiastiques, la main levée? Je jure d'être fidèle à la nation, de maintenir de tout mon pouvoir la République une et indivisible, la liberté et l'égalité, ou de mourir à mon poste. Le 23 mai, par ordre du district apporté par Cambe, un notaire de Fénérol, qui était un puissant révolutionnaire, la municipalité de Saint-Antonin est suspendue et épurée. Le maire Tabarly et le procureur de la commune, Bromé, sont assignés à résidence dans leur maison pour soupçon d'incivisme. On voit bien qu'ils n'étaient pas très révolutionnaires.
Oui, au nom de la liberté, de l'égalité, on destitue et on arrête ce dont les idées divergent de celles du pouvoir en place. Est-ce que ça ne choque pas les Saint-Antoninois de l'époque?
Certainement, ça devait choquer les gens d'ici. Seulement, voilà, nous nous trouvons dans une période d'état de siège, d'état de guerre. Personne ne sera surpris de ce que je dis là, ou du moins des gens de mon âge qui ont vécu la guerre de 39-45, et des gens plus âgés que moi qui ont vécu la guerre de 14-18, dans des situations de conflit international, dans des situations où la guerre civile ravage la France. À cette époque-là, ne l'oublions pas, le pouvoir prend des mesures terribles. Et tout le monde a peur. Parce que quiconque, n'importe qui, peut être déclaré suspect du jour au lendemain. Lastic n'avait rien fait, on l'a mis en réclusion. Il en arrive de même au maire. Le maire, c'était un brave homme, sans doute, qui pensait d'abord à sa ferme de la Veillerie, à ses bœufs et à être tranquille. Seulement, voilà, il n'a pas fait preuve d'assez d'énergie. C'est le district de Villefranche qui a interné Lastic, qui a soupçonné les prêtres, et pas lui. Alors bon, c'est pas un bon révolutionnaire, c'est pas un bon patriote, éliminé.
Oui, il faut être très courageux pour dire qu'on n'est pas d'accord.
Bon, plus que courageux, il faut être, oui, pour dire qu'on n'est pas d'accord, il faut être inconscient. Ou alors, évidemment, exceptionnellement, oui, fort. Il y en a bien eu, sans doute, des gens très forts, moralement, hein. Mais pas à Saint-Antonin. On écrase, excusez-moi d'employer ce mot vulgaire. Le 25 mai 93, nouvelle levée d'hommes pour la Vendée et les Pyrénées orientales où sont entrés les Espagnols. Le 26 mai 93, voyez, les jours se succèdent, il ne passe presque plus de jours maintenant sans qu'on se réunisse. On installe la nouvelle municipalité. qui n'est plus élu, celle-là. C'est le district, c'est le pouvoir, c'est les représentants en mission, les nommés Beau et Chabot, envoyés par la Convention. Rappelez-vous que Beau, c'est le député de Mur de Barrès, qui est aussi député à la Convention maintenant. C'est lui qui a fait que Mur de Barrès a été district et pas Saint-Antonin. C'est un terrible représentant en mission. Il est là, chargé de faire appliquer les lois. C'est lui qui remplace Tavarly, c'est lui qui remplace Bromet. Et on décide de mesurer les grains mis en dépôt et de les mettre en vente au cours pour parer à la famine. Nous sommes au mois de mai. La soudure est difficile à faire. La faim menace. Les pauvres ont faim. Il n'y a plus de blé. Et alors, on avait constitué un grenier communal où on avait entassé du grain. On fait ce jour-là l'adjudication de la levée des contributions qui se monte à 93 389 livres. C'est énorme. Les impositions ont augmenté considérablement. Enfin, le 28 mai 93, je m'arrêterai là si vous voulez, on n'en finirait pas. C'est tous les jours un détachement de 180 hommes de la garde nationale de Saint-Antonin doit partir incessamment pour la Lozère.
Que se passait-il à Lozère?
Eh bien, la Lozère, c'est ce dont j'ai dit tout à l'heure, dans une autre, un peu plus haut, dans un autre jour, on avait annoncé que des gens s'étaient révoltés en France. C'est une Vendée, en Lozère. Les royalistes avaient pris le pouvoir, s'étaient emparés de Mende, avaient destitué toutes les autorités révolutionnaires, et évidemment, le pouvoir central a mobilisé toutes les gardes nationales des départements voisins, et plusieurs milliers d'hommes ont réussi à pacifier, comme on disait, la Lozère.
Ivre de sang et d'orgueil, le peuple souverain s'avance, tyrans descendez au cercueil, la République nous appelle, sache vaincre ou sache périr, un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir,
un Français. Portant sous la chaumière des blessures et des verdis, venez fermer votre paupière quand l'ennemi ne sera plus. La République nous appelle, sa convaincre ou sa chambérir, un Français doit vivre pour elle.
Et ainsi, au fil des pages, jour après jour presque, puisque les officiers municipaux, depuis la déclaration de la patrie en danger, en juillet 1792, sont en permanence, ce qui veut dire une réelle permanence, il y a, pendant toute la journée et pendant toute la nuit, à la mairie, un officier municipal et un notable qui couchent là à la mairie même, avec le secrétaire de mairie. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça, qu'on ne réalise pas, qu'aujourd'hui ce serait impossible à faire. Donc ils sont là en permanence. Alors là, jour après jour, s'inscrivent les faits, s'exécutent les ordres de la convention transmis par les commissaires du district. exécution à laquelle veillent les membres de la société populaire locale, dont le secrétaire n'est autre, je l'ai dit tout à l'heure, que le curé Lassos, et qui est essentiellement formé, chose étonnante, de bourgeois, et pas du tout de gens du peuple. Ainsi, par levées successives, les jeunes Saint-Antoninois, parmi les plus pauvres et les plus démunis, partiront comme volontaires, et je mets volontaires entre guillemets, pour les armées de la République. Ces enrôlements volontaires seront facilités par l'octroi à chacun d'une prime de 300 livres prise sur la caisse de la contribution patriotique, contribution qu'on impose sur tous les citoyens riches qui, eux, bien sûr, ne partent pas. On comptera ainsi au total, aux époques les plus fiévreuses, près de 500 Saint-Antoninois qui participeront aux glorieuses campagnes de ces soldats de l'an 2, ces va-nu-pieds superbes qu'a exalté Victor Hugo et dont plusieurs laisseront leur vie là-bas dans les champs de bataille de Puigcerdà, de Toulon, de Grasse ou d'Antibes.
Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorgés pour qu'ils disent aux compagnes: aux armes, citoyens, emmenez vos bataillons, marchons, marchons.
Monsieur Julien, pour aller combattre l'ennemi venu de l'extérieur, ou les Français rebelles à la Révolution, un grand nombre de Saint-Antoninois sont mobilisés. Ce fait doit certainement avoir des répercussions importantes sur la vie économique de Saint-Antonin.
Évidemment, ça a des conséquences même dramatiques, parce qu'en leur absence, la vie continue, certes, mais la vie est difficile pour les gens du peuple à cause du renchérissement des denrées de première nécessité comme le pain. Il y a moins de bras pour travailler le sol, il y a moins de bras pour travailler dans les ateliers, et on manque de grains pour la fabrication du pain. Ce sont des années, pendant plusieurs années ainsi, on a manqué de grains. J'ai dit tout à l'heure que les officiers municipaux avaient constitué des greniers, un grenier communal. Et puis il ne faut pas oublier autre chose aussi, c'est qu'il y a dans toutes ces périodes troubles, toutes ces périodes d'état de siège, où le pain manque, il y a le phénomène de l'inflation et de l'inévitable marché noir. C'est un mot qui a été inventé à la dernière guerre, mais il a toujours existé. Il y a ceux qui profitent de la situation, ce qu'on appelle les accapareurs, les spéculateurs, qui cachent le grain chez eux, et cela suppose des visites domiciliaires, sur ordre du district toujours. La nation est en guerre, c'est ce qu'il faut dire, une guerre totale contre les ennemis de l'extérieur et ceux de l'intérieur. Et pour faire face à cette situation dramatique, pour calmer un peu le mécontentement populaire qui est scandalisé par l'enrichissement de certains, ne l'oublions pas, il y en a qui s'enrichissent, et la terrible condition faite aux autres, la Convention pour lutter contre les ennemis, pour calmer les appréhensions du peuple, décrète la levée en masse. Alors sont descendues les cloches des églises qu'on enverra à la fonte, aux fonderies de Villefranche ou de Montauban. Alors sont réquisitionnés tous les ornements sacerdotaux contenant de l'or et de l'argent, vases comme chasubles, qui seront envoyés à la monnaie. Alors seront enlevées les rampes et les grilles de fer des bâtiments publics qui seront utilisés pour la fabrication des pics. On se demande ici à Saint-Antonin par quel miracle a pu être sauvée la belle rampe en fer du grand escalier de la mairie. Comment est-elle restée en place alors qu'on a enlevé toutes les autres grilles qui étaient dans cet édifice? L'église des ex-capucins, rappelons-nous, c'est le garage actuel Renault, sera transformé en atelier pour la fabrication du salpêtre.
Oui, comment fabriquait-on le salpêtre ?
Eh bien, essentiellement, on procédait à un lessivage de toutes les caves de toutes les maisons. Ces caves plus ou moins humides sur lesquelles se dépose à la surface des pierres cette efflorescence, cette espèce de sel blanc. C'est du salpêtre. On lessive les eaux recueillies sont dégoûtantes, sont sales, bien entendu. Elles seront ensuite chauffées dans des chaudières dans l'atelier du salpêtre pour obtenir le salpêtre avec lequel on fera la poudre. Cette levée en masse avait ordonné à tout le peuple en France de participer à l'effort de guerre, hein.
Et c'était une fabrique importante à Saint-Antonin?
Ah oui, c'était une fabrique importante. Le district fixait tant de quintaux. On ne disait pas des tonnes, on employait le mot quintaux, autant de livres, quintaux, autant de quintaux de salpêtre à fournir dans le mois. Et on avait une semaine pour le faire. Hein. Et alors, pour faire le salpêtre, il faut du bois aussi pour chauffer les chaudières. On réquisitionnait le bois. Et autant que possible, on le prenait sur les suspects. Les bois du citoyen Lastique, là, ont été passablement tendus à cette époque-là. Mais il n'y a pas que le salpêtre que l'on fabriquait. Il y avait aussi tous les cordonniers, tous les tailleurs de Saint-Antonin ont été réquisitionnés à cette époque-là pour la fabrication des souliers et des habits des soldats de la République, dont on a, Victorio disait, s'est venu pied sur terre. On connaît la fameuse anecdote de Saint-Just à Strasbourg, qui ordonne qu'on livre le lendemain ou dans la semaine 20 000 paires de souliers pour l'armée du Rhin, justement. Eh bien, ici, c'était pareil, il fallait livrer. C'était pas l'armée qui fournissait, c'était le peuple qui fournissait. Une sorte de fièvre s'empare des esprits. Exaltation chez les uns qui attendent tout de la République. Angoisse c'est chez les autres qui craignent pour leur bien ou pour leur liberté et s'empressent de se faire délivrer des certificats de civisme par ces officiers municipaux qui eux aussi s'efforcent de naviguer entre deux eaux sans trop de dommages au milieu de cette tempête qui jette bas l'ancien régime de fanatisme et de tyrannie comme on disait alors.